quand je m'assois ici et je ne regarde pas vers le front, et puis je monte ici pour la prédication, je suis toujours surpris. Le groupe a presque doublé. Pas doublé, mais les places sont prises. Ça serait vraiment bien si vous pouvez venir, c'est nos recommandations, un peu avant le culte, pour méditer sur les versets comme nous avions eu ce matin, préparer le cœur. Une des raisons, on n'est pas là, c'est probablement on était bousculé à la maison. Quelqu'un a dit que Satan double ses forces de démon dimanche matin pour pincer les petits enfants pour qu'ils pleurent beaucoup plus que normalement, pour faire irriter les maris et contre les femmes, pour faire dérégler n'importe quoi pour qu'on arrive à l'église comme ça, agité comme le verset qui était là. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes de trop de choses. Tu t'agites de trop de choses. Marie a choisi la bonne part. Ah, Marie a choisi. C'est un choix. Ça ne venait pas tout seul. Elle a préparé pour que elle était où elle aurait dû être au moment qu'il fallait être là pour qu'elle ne s'agite pas. Donc, préparer samedi soir. Le cœur pour dimanche. Et vous allez voir une grande différence. Vous allez venir, malgré les agitations qui vont venir, dimanche matin, vous êtes bien élevé avant pour prévoir les imprévus et pour venir adorer ensemble sans agitation. Je crois que certaines passent tout le culte en plein d'agiter. Il n'est pas possible de réfléchir sur les mots, des cantiques, des versets bibliques, tout se passe au-dessus de la tête parce que on n'a pas fait le choix de préparer pour l'adoration ensemble. C'est juste une recommandation pour votre réflexion. Et je vous invite maintenant d'ouvrir vos Bibles à Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, verset 20 jusqu'au fin de chapitre est le cœur du livre de Romains. Enfin, dans un sens, c'est le cœur de tout l'évangile. Il contient une bonne douzaine de mots très, très théologiques qui sont très importantes et à travers lesquels l'histoire de l'Église, des différentes sectes même, se sont basées sur une mauvaise interprétation de certains mots très, très, très importants, dont le pire est peut-être le mot que nous voulons considérer aujourd'hui. Foi. La réforme a recapturé, a redécouvert le salut, justification par la foi seule depuis 400 quelques années déjà. Et il n'y a pas d'évangélique qui n'est pas sûr qu'on est sauvé par la foi, que notre justification vient par la foi. La bataille aujourd'hui, c'est pas la même. La bataille aujourd'hui entre les églises, même évangéliques et protestantes et sortant de la réforme, n'est pas cette est-ce qu'on est sauvé par les œuvres ou est-ce qu'on est sauvé par la grâce à travers le moyen de la foi? Mais la bataille et les questions de discussion dans notre génération est quelle est cette foi qui sauve? Quel est le type de foi qui sauve? Parce que tout le monde croit quelque chose concernant Dieu. Comment savoir si j'ai la foi, la bonne foi. Comment savoir si j'ai une foi qui n'est pas à côté de la plaque, pour ainsi dire, bibliquement? Et c'est très, très, très important. Et mon but, c'était de prendre un message pour traiter ce sujet, et même tôt ce matin, je me suis dit, ça va pas, il faut au moins que je coupe en deux. Parce que rien n'est plus important. Si les implications de la foi qui sauve sont si imprégnées à travers la Bible, Hébreux 11, 6, par exemple, que je n'avais pas mis sur l'écran aucun part aujourd'hui, vous pouvez peut-être noter, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi. Mais qu'est-ce la foi? Et si vous demandez à plein de gens sur la rue, ils vont dire, oui, oui, il faut la foi. Qu'est-ce la foi qui sauve? Il n'y a aucun religieux qui est sans foi. Est-ce que c'est la foi qui sauve? Certaines pensent on est sauvé par la sincérité. C'est-à-dire, il faut simplement que vous croyez quelque chose et que vous croyez fermement et que vous croyez sincèrement, peu importe l'objet de votre foi. Est-ce qu'ils ont raison de penser comme ça? Si vous allez à la gare et vous regardez sur le quai et le train que vous devez monter, est-ce que c'est important que vous choisissez le bon train, ou simplement que vous montez sur un train avec toute sincérité que vous allez arriver à votre destination. C'est la sincérité qui compte. Ayez la foi si jamais vous avez l'impression d'aller dans le mauvais sens. Priez. Et demandez Dieu de renforcer votre foi qui faiblisse pour l'instant. Votre foi est très sincère, mais basé sur un objet qui ne va pas vous rendre à Paris, si ça c'est de votre destination. Et c'est la même chose par rapport à la foi chrétienne. Si j'étais le diable et je voulais influencer le monde, j'avais dit ça avant, mais avec d'autres choses, mais un de mes outils très proches serait de donnez une impression que la foi, c'est la sincérité. Peu importe ce que vous croyez, croyez. C'est ça ce que Dieu regarde. Ah, cette personne, il est très sincère. Oui, je sais s'il est sur le mauvais train, mais ce n'est pas grave. Il est sincère, je le racheterai. Ce n'est même pas logique et c'est certainement pas biblique. Et comment donc est-ce que nous devrions faire pour que nous ayons l'assurance que la foi que nous avons est la foi qui sauve? Dans notre texte, nous voyons le mot au moins 7 fois, le mot foi, sans parler des autres mots qui ont des implications très, très, très... Écoutez, à travers ma vie chrétienne, en parlant avec différentes personnes, j'ai eu à plusieurs reprises, à travers les années, le privilège de parler avec quelqu'un qui cherchait le salut, qui cherchait marcher avec Dieu, mais qui ne savait pas quoi faire. Et je n'ai jamais entendu quelqu'un dire, Robert, faites-moi comprendre la justification pour que je puisse être sauvé. Ou faites-moi comprendre la rédemption pour que je puisse être sauvé. Ou faites-moi comprendre la propitiation, verset 25, pour que je puisse être sauvé. J'ai jamais eu quelqu'un qui m'ait posé cette question. Mais très souvent, qui posait la question, qu'est-ce que c'est la foi? Je constate maintenant, ici, qu'on peut entendre un épingle, parce que vous posez tous la même question, même ceux qui vous savez. On peut toujours mieux comprendre la foi qui sauve. Et si je pourrais jouer le rôle de Satan, je ferais sûr que vous vous mettez un tout petit peu à côté de la plaque pour que vous montiez le mauvais train avec toute sincérité, mieux que vous êtes sincère dans votre foi sur le mauvais objet, que vous soyez nonchalant, vous risquez peut-être tomber sur une bonne chose. Je ne peux pas souligner la profondeur de l'importance et la nécessité de comprendre ce que sans, on ne pourrait pas avoir le salut. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Avec cette petite introduction, j'aimerais bien que nous lisions ce passage avec un peu, mais pas beaucoup de commentaires à partir du verset 20. Et je l'avais mis, et puis après je me suis dit, non, j'aimerais bien que vous regardiez dans votre Bible. Donc, ouvrez vos Bibles, Romains chapitre 3, et si la personne à côté de vous est sans Bible, partagez la vôtre avec lui, s'il vous plaît, pour que nous puissions lire. Romains chapitre 3, à partir du verset 20. Personne ne sera justifié devant lui, Dieu, par les œuvres de la loi, puisque c'est par loi, et j'enlève le article défini parce qu'il n'est pas là dans le grec, et ce n'est pas en train de parler de la loi de Moïse, c'est en train de parler du principe de loi. Loi, peu importe la loi, n'arrive pas à sauver, mais à faire connaître le péché. Verset 21. Mais maintenant, sans loi est manifestée la justice de Dieu. Sans loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi maintenant, article défini, la loi de Moïse et les prophètes que nous lisons. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a été témoigné depuis le début, dans l'Ancien Testament aussi. C'est quoi ça? Justice, verset 22, de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour qui? Pour tous ceux qui croient. En grec, il n'y a qu'un seul mot pour le nom et le verbe. Mais comme nous n'avons pas un verbe pour foi, 239 fois sur 248, il traduit ça « croire ». À ceux qui foient, à ceux qui croient, parce qu'on n'a pas le verbe « foi » en français. Il n'y a point de distinction, je répète. Juste, qu'est-ce que c'est? C'est la justice de Christ par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, verset 23, parce que, pourquoi il n'y a pas de distinction? Parce que tous ont péché. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et ces gens sont gratuitement justifiés par sa grâce. C'est pour cela qu'il n'y a pas de distinction. Parce que tout le monde, juif, il avait parlé d'abord aux païens, chapitre 2, 1 et 2, et puis chapitre 1 et chapitre 2 aux juifs. Maintenant, chapitre 3, il n'y a pas de distinction. Que ce soit juif, qui ont eu la loi de Moïse, que ce soit païen, qui n'ait jamais entendu parler de Moïse, il n'y a pas de distinction parce qu'ils ont tous péché, ils sont tous privés de la gloire de Dieu, ils sont tous dans le même pot, et ils sont tous gratuitement justifiés par sa grâce, si ils sont sauvés et ont cru. Déjà dit. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang. Pour qui? Pour ceux qui croiraient. Il est quoi? Victime propitiatoire. Je ne vais pas parler sur ça beaucoup aujourd'hui. Nous avons déjà parlé du fait que c'est le victime qui a apaiser la colère de justice, qui égalisait les comptes, pour que le offensé soit apaisé. Dieu était offensé par nos péchés. Son Fils est devenu victime propitiatoire afin de montrer sa justice, continue la lecture, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. 26. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent. Comment? De manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Comment? Par dire, Dieu est obligé de me sauver parce que j'ai fait ça, et ça, et ça. Où donc maintenant, avec cette définition, a le sujet à glorifier? Il est exclu. Glorification de soi, par quel principe, par quelle loi? Mais par la loi des œuvres. Non. Par la loi des œuvres, non. Mais par la loi de la foi. Ça, c'est curieux. Loi, foi, la loi de la foi. Le principe de la foi dans ce sens. Parce que, verset 28, nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien, Dieu, 29, est-il seulement le Dieu des Juifs donc? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens, puisque il y a un seul Dieu qui justifierait par la foi les incirconcis et les non circoncis. Et ça inclut tout. Qui croit? Juif, circoncis, non-juif, incirconcis? Ce n'est que la foi. Alors, 31. Annulons donc, nous, la loi, par la foi? La foi est venue pour éliminer la loi? Loin de là, au contraire, nous confirmons, nous établissons, nous affirmons, nous soulignons la loi et sa justice. La foi dans notre substitut qui est allé jusqu'au bout de la justice divine a souligné la pureté, la bonté, la suprémité de la loi. Par une loi supérieure qui a survaincu, pas supprimé, mais passé au-dessus en pleine justice et pureté pour que l'énigme qui existe quand Paul commence le livre de Romains est enfin résolu. Comment un Dieu juste puisse justifier un injuste comme Robert tout en restant lui-même juste. Par l'Évangile. En quoi ceux qui croient doivent se confier. Donc, nous allons voir 7, mais pas tous aujourd'hui. Cette chose, cet élément qui constitue la foi qui sauve. Je me rappelle, et ça c'est mon témoignage, quand j'avais 17 ans, j'avais prié 1000 fois pour le salut. J'avais toujours l'impression qu'un Dieu de colère était juste derrière moi. J'avais l'impression que, oui, j'entendais un très bon message, je suis avancé dans une réunion d'évangélisation, je me suis mis à genoux, j'ai prié pour le salut. Plein de foi. Pendant toute ma jeunesse, née dans une famille chrétienne, où la parole de Dieu était respectée, et nous avons lu systématiquement dans nos cultes familiales, le matin et le soir avant de dormir, avec mes 9 frères et sœurs, dont j'étais le deuxième, le premier fils. Je me rappelle très bien cette nuit-là, quand j'avais 17 ans. Mon père est très malade dans l'hôpital. Celui qui aimait le Seigneur cherchait à mener ses enfants à terminer par dire « ce n'est pas la peine ». Il cherchait à se suicider. Et il n'a pas réussi. Presque. Dans un état de choc, je savais au moins une partie de raison de ça. C'est parce que son premier fils était plein de rébellion, plein de péché, qui n'osait pas dire quoi que ce soit par peur de discipline, parce qu'ils étaient bien autoritaires et sévères avec leur amour, mais qui ressentaient ce bouillonnement à l'intérieur de leur fils qui était en colère avec tout le monde et surtout avec eux qui représentaient les autorités que Dieu a établies au-dessus de leur fils. J'avais 17 ans. Je viens de recevoir mon diplôme de lycée. Je cherchais le moment où je pourrais sortir et vivre ma vie. Et cette nuit-là, différemment que toutes les autres nuits, mes péchés sont venus devant moi, les vols que je l'avais fait, les mensonges que je l'avais dit, les grossières morales que je l'avais écoutées avec plaisir et parfois même répétées à mes copains. Le langage que j'utilisais parce que j'ai appris à l'école, jamais à la maison, mais à l'école, pour démontrer que j'étais quelqu'un de masculin, avec des gros mots qui sortaient facilement de ma bouche. Cette nuit-là, tout ça passait devant mes yeux et je ressentais la colère de Dieu. J'avais prié maintes fois que Dieu me sauve. Rien ne semblait marcher. Maintenant, il y a mon père qui se bat pour sa vie. Et c'est comme ma conscience disait Robert, c'est toi qui l'as poussé vers ça. C'est toi, c'est ta faute. Et je suis sûr qu'en partie, c'était ma faute. Mais tout est changé cette nuit-là, en tout cas. Pour la première fois à genoux devant mes parents, parce que vers 2 heures du matin, devant mon lit, excuse-moi, j'étais seul avec le Seigneur, mais mon père est dans l'hôpital, ma mère était à côté de lui, j'étais aussi à côté de lui, je rentrais à la maison, notre pasteur nous a amenés à la maison pour qu'on puisse dormir, mais je dormais pas. Je criais au Seigneur, j'ai constaté mes péchés, était entre moi et Dieu. Et j'ai crié pour son pardon. Il n'y avait rien qui m'intéressait, sauf être délivré de ce fardeau de culpabilité que je ne voyais peut-être même pas comme culpabilité. Mais c'était un sentiment de mal, de mauvais à l'intérieur de moi, avec la preuve dans ma mémoire. Je pourrais accumuler fait sur fait sur fait sur fait, malgré le fait que j'étais éduqué dans une famille chrétienne. Et malgré le fait que je n'étais pas permis de lancer dedans physiquement comme d'autres peut-être grâce à leur protection, mais dans ma tête, ils ne pouvaient pas emprisonner ma tête qui bouillonnait de méchanceté et de péché. Et cette nuit-là, j'ai cru. J'ai cru, et en regardant en arrière après, je crois que c'est la première fois que j'ai cru. Ah oui, j'avais compris que être sauvé par la foi, c'est de croire. Je crois. Mais je n'ai pas cru. Et peut-être ça c'est le témoignage d'autres ici aussi. Je sais bien que je ne suis pas le seul. J'avais rencontré d'autres personnes. Comme moi. Je rentrais à la maison, à pied, j'entendais un grand camion qui venait derrière moi. J'ai dit, Dieu va dire, ok Robert, j'en ai marre. Le pneu de cette voiture va sortir, ça va rouler contre toi, tu seras aplati et tu le mériterais. Et je tremblais et puis il est passé et j'étais encore vivant. Mille fois ça. Et je me demande si ça c'est pas peut-être le cas. Ce qui se passe à l'intérieur. Je connaissais beaucoup de choses, mais je n'avais pas la foi qui sauve. Et la foi qui sauve est d'être persuadé. Premièrement, il n'y a pas que ça, attention. Tout ce que je vais dire sur ce point, Satan serait d'accord. Jacques 2, 19. Les démons croient, ils tremblent. Donc ce que je veux dire est absolument essentiel pour avoir la foi qui sauve. Mais il n'y a pas que ce point tout seul. Mais premièrement, la foi est persuadée dans l'évangile sans nier ni douter. Vous rappelez quand Pierre, quand les disciples étaient avec Jésus, et Jésus disait quelque chose qui pour eux était vraiment pas acceptable, inadmissible, et la Bible dit beaucoup de ses disciples s'éloignaient de lui, parlant pas des douze, mais des disciples, où il y avait des milliers. Et Jésus tourne vers les douze et il dit, et vous aussi, vous allez partir? Et Pierre dit, nous avons cru et nous avons connu. Et j'aurais dû souligner le mot connu. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Fils, le Saint de Dieu. Connaître et croire sont absolument essentiels sans nier ni douter. C'est très intéressant que 5 ou 6 versets plus tard, en chapitre 7, Jésus était avec ses frères qui, d'une manière acceptable, se moquait de lui, parce que la Bible dit ses frères non plus ne croyaient sur lui. Allez à Jérusalem, mettez-vous dans le public, si vous êtes le Messie, présentez-vous, personne, ce qui est vraiment grand comme toi, tu réclamettes, il ne se met pas en cachette, vas-y, et présentez-vous devant tout le monde. Parce que, dit-il, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Et peut-être la situation la plus lucide par rapport à ceci, c'est quand Thomas qui disait, à moins que je vois les mains et les marques de ses clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque de ses clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirait point. Et nous l'appelons Thomas, le douteur. N'est-ce pas? Thomas, le douteur. Parce qu'il refusait de croire. Il refusait d'accepter sans preuve tangible. Donc, le douteur veut dire, je n'accepte pas, à moins qu'il y ait des preuves acceptables à mes sens. Nier, c'est simplement le refus de croire carrément. Nier, c'est refuser de croire. Douter, c'est ne pas croire à moins que les preuves que je cherche soient agréables à ce que j'estime être croyable. C'est moi le dernier juge pour le douteur. Et donc, nous lisons que Jésus disait à Thomas, Thomas, viens. Tu cherches des preuves. Cette fois, je t'en donnerai. Je t'assure, ça ne serait pas le cas la semaine prochaine. Ça ne serait pas le cas l'année prochaine. Mais viens. Ne sois pas incrédule, mais crois, Jésus a dit. Croire donc, c'est de accepter d'être persuadé. J'avais mis accepter, j'ai changé à persuader parce que c'est ça. C'est d'être persuadé avec une conviction sur ce, sur la proposition présentée. Même si vous n'avez pas la preuve, vous êtes tellement sûr, comme Isaac Amazov, qui était un athée, je crois qu'il est mort maintenant, mais qui était très 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 connu, scientifique, qui disait, je sais que je ne peux pas prouver que Dieu n'existe pas, mais tellement je suis sûr dans ma tête, je ne veux pas gaspiller le temps de prouver qu'il n'existe pas. Ou de chercher à savoir s'il existe, parce que je suis tellement sûr. Alors, rien n'est plus moins scientifique qu'une phrase comme ça. Il avait dit ça. La foi inclut une persuasion de la vérité. Mais attention, je vous avais déjà dit, Satan a cette foi, jusqu'au point où il tremble. Au moins, il tremble. Il y a plein de gens autour de nous qui ne tremblent pas du tout. Au moins, il tremble. C'est une foi encore mieux que la foi qui existe même dans beaucoup d'églises. Donc, elle est persuadée de l'évangile sans nier, sans douter. Notez ça comme un des éléments absolument essentiels dans la foi qui sauve. Et ça amène à une deuxième chose qui est vraiment dans la parole de Dieu, que la foi est une croyance qui change ses convictions. Attention, la foi n'est pas quelque chose avec quoi quelqu'un est né. Certains disent, on demande, quand es-tu devenu croyant? Oh, je suis né croyant. Non, personne n'est né croyant. Tous sont nés rebelles, croyant dans votre naïveté. Mais dès que vous apprenez de plus en plus, ceux qui exige une foi en lui, demande de vous, de plus en plus, vous deveniez exprès non-croyant. Vous vous éloignez de celui qui insiste sur certaines choses. Une croyance qui change ses convictions. Ce n'était pas le cas avec les démons. Ils ne sont pas arrivés à un certain point où ils ne croyaient pas, mais un moment, ils ont décidé de croire. Ils n'ont pas pu ne pas croire. Ils savaient depuis le début. Il n'y avait pas de salut pour eux. Ils sont tombés exprès en s'éloignant de Dieu, en se révoltant contre Dieu. Ils n'avaient jamais une seule fois changé leur position pour qu'ils puissent être sauvés. S'il y avait une salut, c'est la même chose avec des êtres humains. Il y a plein d'êtres humains qui vous courtoyez, qui sont aussi déterminés que peu importe l'épreuve, ils vont être comme Thomas, ils préfèrent de dire « je doute, mais je ne vais pas croire à moins que ». Et il n'y aura jamais le « à moins que » qui arriverait. Il va assurer que ça ne serait pas le cas, parce que leur décision est déjà faite. Ils ne croiraient pas. Jean-Baptiste a dit, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez. Nous avons deux côtés de la même pièce. Changez votre avis. Croyez à la bonne nouvelle. Si j'avais une pièce de monnaie, ici, je le mettrais ici, et si le face est vers ça, le dos est vers ça. Quand vous avez deux positions, vous êtes né avec votre face vers la ténèbre et votre dos vers la lumière. S'il y avait ici un piano, il y avait ici une guitare, et vous êtes convaincu que le guitare fait la meilleure musique. Non, c'est pas une bonne illustration parce que ça touche un sujet controversé. On va utiliser une autre. Vous avez un Renault ici et vous avez un Peugeot ici. On va faire ça. Et vous êtes convaincu que le Renault c'est le mieux. Ça va placer pauvre Renault quand même dans le mauvais lumière, mais ce n'est pas une publicité. Vous êtes convaincu que le Renault c'est le mieux. Et à un moment donné, tu es convaincu, oui, parce que ça c'est un Twingo. Et ça c'est un, je ne sais même pas, le luxe. Et à un moment donné, on dit, si vous tournez le dos et changez votre vie, vous allez comprendre que vous allez avoir beaucoup plus de voitures pour votre argent que ça. Et vous êtes convaincu, vous tournez votre visage vers le Peugeot et vous tournez votre dos vers le Renault. Et maintenant, vous avez changé votre direction de vie. Changer votre avis sur la vie est impossible sans changer la vie, parce que c'est un changement si fondamental dans votre compréhension de le principe de vivre. La foi est une foi qui se repente par ceux qui croyaient avant et maintenant il ne peut pas croire autrement. Son visage est comme ça. Et son dos est par là. Et il ne peut pas changer. J'aurais dû utiliser peut-être une autre illustration. C'était pas même dans mon idée de le dire. Mais c'est ça. C'est la repentance. Dont la Bible parle. Et donc Jean est en train, Marc est en train de dire ici, Jean-Baptiste prêchait. Deux choses, repentez-vous, croyez la bonne nouvelle, repentez-vous, changez votre esprit pour que vous croyiez, ou bien croyez pour que vous repentiez. Certains disent c'est l'un qui est premier, l'autre qui est deuxième, peu importe, c'est la même chose. Si la foi produit la repentance, ou c'est la repentance qui produit la foi, c'est quand même la même chose. Il y a le dos qui est maintenant tourné dans l'autre sens. La foi qui sauve est ça. La foi n'a aucune idée de « je suis croyant mais pas pratiquant ». Ce n'est pas possible. Vous avez tourné le visage, vous marchez. Et vous ne pouvez pas ne pas marcher. Ou vous marchez dans ce sens sans la foi, ou vous marchez dans ce sens avec la foi, mais il n'y a pas de troisième voie au milieu. La foi est un changement de direction, parce qu'il y a un changement de principe fondamental de la vie quotidienne et éternelle. Et Paul dire, qu'est-ce que je fais? Moi, Paul, j'annonce aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi, croyance envers notre Seigneur Jésus-Christ. Paul prêchait le changement de la vie. Un changement si radical, si simple, si radicalement simple, que demain, avant, je marchais comme ça, maintenant, je marche comme ça, je fais la même chose, mais dans l'autre sens. Et je ne peux pas ne pas faire comme cela. La foi, qui est la foi qui sauve, est une foi qui change de direction de sa vie. Donc, ce que nous avons ici, dans ces deux choses, nous avons la foi, plus la repentance, qui égale ce que la Bible appelle la conversion, c'est-à-dire de faire demi-tour et de tourner. Donc, nous lisons Actes chapitre 3, verset 19, c'est Pierre qui prêche, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Repentez-vous et convertissez-vous. » Donc, la croire une côté de la pièce, la foi, une persuasion absolue et un changement de direction et de vie de l'autre côté, tourner de dos, ça s'appelle conversion, de se tourner, de faire demi-tour. Troisièmement, la foi une croyance. La foi est une croyance qui est basée sur un objet. Ce n'est pas juste l'optimisme. Oui, je sais que vous avez eu des malheurs, mais écoutez, aie foi. Courage. Sois optimiste. Ça va passer. Je suis pas contre l'optimisme. Mais ce n'est pas l'optimisme qui sauve. Ce n'est pas la foi qui sauve. La foi n'est pas juste être optimiste, être souriant, être dansant. Ça, c'est pas la foi. C'est basé sur un objet. Et peut-être le meilleur passage serait le passage dans 1 Corinthiens chapitre 15, qui est souvent lu au Pâques. Je vous rappelle, dit l'apôtre Paul, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, je l'ai souligné, vous avez reçu, et dans lequel vous avez persévéré, et ça c'est un mot pour plus tard, et par lequel vous êtes sauvés. Alors, il y a une foi reçue, il y a une foi qui avait d'abord été annoncée, et qui ayant été annoncée a été entendue, et qui ayant été entendue a été reçue, et parce qu'ils avaient changé leur vie, ils persévèrent maintenant dans un autre sens, qui est la foi qui sauve. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, il y a plein de fois qui ne sauvent pas. Cette fois que j'annonce, qui n'a pas encore annoncé, il va annoncer maintenant, est une foi et la seule foi qui sauve, qui sait que Christ est mort. Christ, c'est l'objet. Sa mort, la mort de Christ, c'est l'objet. La mort de Christ pour des péchés, c'est l'objet. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et plus tard, en verset 11, il va dire comme ceci, quand il résume. Ainsi donc, que ça soit moi, que ça soit eux, voilà ce objet, l'évangile, la bonne nouvelle de Christ, mort pour nos péchés, enseveli, mais qui n'a pas pu être gardé dans le tombeau, parce que c'est lui qui donne sa vie, que c'est lui qui, quand il veut, refait vivre lui-même ce qui était passé, et nous avons célébré la semaine dernière. Que ce soit moi, que ce soit les autres apôtres, que ce soit qui que ce soit, qui prêche ça, ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. C'est ça qui sauve. La foi qui flâne, le mot qui flâne à gauche et à droite dans beaucoup d'églises même, et la plupart, une bonne partie de gens ne savent pas ce que c'est la foi. Convaincu qu'il a, le but ici n'est pas de vous faire peur que vous avez une foi qui sauve, mais de vous faire constater, avez-vous la foi qui sauve? Sinon, faites-vous peur. Comme moi, 17 ans, dans une église où je n'ai jamais une seule fois dans toute ma vie loupé un dimanche, même pas la réunion de prière mercredi. Je me rappelle une seule fois, je suis pas allé à la réunion de prière. Et ça, c'était parce que je prétendais être malade, juste après avoir reçu mon permis de conduire, à 15 ans, 8 mois, pas un jour avant, ni un jour après, parce que c'était la loi. Et mes parents, avec mes 9 frères, se sont partis à la réunion de prière. J'étais malade. Il y avait une petite camionnette derrière, qui appartenait aux sociétés où était mon père. Et dès qu'ils sont partis, je suis allé dans la camionnette pour partir, pour voir un voisin. Et quand je restais 20 minutes parce que j'étais nerveux, et quand je suis rentré, mes parents étaient là. Ils avaient oublié quelque chose et ils sont retournés pour le chercher. Je tremblais. Et pourquoi j'ai dit ça? C'était vrai. J'ai cru qu'ils étaient partis. Ils n'étaient pas partis. Je ne me rappelle plus pourquoi j'ai dit ça. Mais de toute façon, peut-être ça revienne et vous allez faire l'application vous-même. C'était pas dans mes notes. La foi est une croyance qui est basée sur un objet. Merveilleux passage. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Christ l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je n'ai pas souligné le mot croire parce que je voulais souligner ici l'objet de votre croyance. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus, quand tu dis le Seigneur de Jésus, ce n'est pas juste une étiquette, c'est j'accepte le roi qui est Seigneur. J'accepte Jésus qui est Seigneur. Il est mon Seigneur. J'accepte ça. Si tu as une bouche qui confesse, ce n'est pas juste une seule fois. Ah, j'ai entendu qu'il a confessé Jésus. Sauvé, je marque. Il ne marche plus avec le Seigneur. Non. C'est avoir une bouche qui confesse. Confesse, c'est quoi? C'est dire la même chose. Le mot confesser, c'est dire la même chose. Parce que ça sort du cœur. Parce que c'est dans le cœur. Il est marqué. Tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu as une bouche qui confesse Jésus comme Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Oh, j'ai mis ça deux fois. Quel est le verset 10? Je me suis trompé là. Verset 10, regardez dans vos Bibles. C'est ça ce que je voulais mettre dans le deuxième. Romains 10:10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ce n'est pas à dire forcer une verbalisation d'une idée de ta bouche. Non. Ça veut dire avoir une bouche qui est une bouche confessante, qui ne peut que confesser Christ, parce que c'est ce qui sort de son cœur. Tu as une bouche comme ça? Parce que c'est normal, c'est ça qui démontre la véracité, entre autres, de votre confession de foi. Avez-vous une foi qui est absolument convaincue et persuadée dans un objet, Jésus-Christ, mort pour nos péchés. Avez-vous cela? Vous serez sauvés. Désolé, parce que j'ai pas constaté verset 9. Mais qu'est-ce que ce verset est en train de dire? Un peu plus loin, nous lisons. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Parce que 13 dit, si vous invoquez le nom du Seigneur, vous serez sauvés. Je ne l'ai pas mis. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, comment invoquent-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, sans prédicateur, ils ne peuvent pas savoir quoi croire. Sans savoir l'objet de la foi, ils ne peuvent pas croire dans la foi, dans l'objet qui sauve. Sans croire, ils ne peuvent pas l'invoquer, et sans l'invoquer, ils ne peuvent pas être sauvés. Vous voyez pourquoi il est tellement nécessaire de réflexion, pas que des sentiments de remords et de culpabilité ne sont pas nécessaires, absolument nécessaires. Pas que les sentiments ne sont pas nécessaires, interdits dans un culte de louange, mais ne sont jamais primordiales. Si j'étais Satan encore, je vous donnerais un drogue pour que vous dansez, pour que vous criez, pour que vous soyez heureux, sans aucune réflexion intellectuelle sur la base sur quoi votre joie reste. Les disciples se mettaient ensemble pour entendre l'enseignement des apôtres. L'Église se mettait ensemble, acte 2, 42, pour apprendre l'enseignement, la doctrine des apôtres, et pour se réjouir dans une claire, lucide réflexion de l'objet de leur foi, Jésus-Christ, qui, plus qu'on réfléchisse, ça pousse une spontanéité émotionnelle assez souvent. Si ça c'est le remorque et jamais l'engêne, c'est une bonne chose. Je vais arrêter ici parce que le temps est passé. Continuez avec encore 4. Ça ne serait pas la semaine prochaine ni la semaine après. Il y a d'autres personnes qui vont prêcher ces 2 semaines. Missionnaire en Espagne qui va prêcher en 15 jours en anglais et traduit par Timothée qui sera là ici avec nous parce que Timothée aurait été dans notre retraite. Mais en 3 semaines donc, je vais continuer avec ceci, je ferai une révision. Chers amis, je n'ai rien parlé sur quelque chose de plus important. Il est absolument critique, absolument vital, absolument irremplaçable, la foi qui sauve bibliquement et très souvent pas la foi en qui beaucoup met leur confiance. Un homme disait à Jésus, peux-tu faire quelque chose pour mon fils? Et Jésus dit, puis-je? Peux-tu croire? Oh oui Jésus, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Je reconnais qu'il y a ça aussi, n'est-ce pas? C'est un don de Dieu qui est un des points. La foi est un don de Dieu exercé par le croyant pour recevoir la personne de Jésus-Christ dans sa vie. Une foi est persuadée des faits clairement et lucidement présentés dans l'Évangile. Une foi qui sauve change de direction pour que maintenant on ne peut que aller dans un sens. Repenter de quoi? Mais de tout. De tes péchés, de tes égocentrismes, parce que tout ce que vos désirs étaient concentrés autour de, du moi, maintenant la foi qui sauve dit, non, je ne vis plus pour moi. Ce qui peut être un obstacle à ma relation avec Dieu va partir, légal ou pas légal. Parce que maintenant ma raison d'être n'est plus qu'avant. La foi qui sauve mène vers ça. Depuis le début, ça commence comme ça. Faiblement peut-être, mais clairement, observablement, nous allons voir plus tard. Sans prédicateur qui vous, qui moi, qui articule le salut aux autres, savent pas quoi croire. sans savoir quoi croire, peuvent pas croire en ce qu'il faut croire. Et sans quoi, ils peuvent pas invoquer le nom du Seigneur, et une personne qui n'invoque pas le nom du Seigneur ne sera sauvée. Celui qui invoque, celui qui est un invoqueur. C'est pas simplement une seule fois encore. Celui qui croit est celui qui invoque tous les jours. Parce qu'il a un autre principe de vie. Et ça vient de Dieu. Et il le sait. Il peut plus ne pas croire. Malgré la faiblesse, ah oui, il y a cette tension, j'admets. Par expérience et par la Bible, je crois, vient au secours de mon incrédulité.